D'accord. Bah, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours, du coup?
Mon parcours quoi, d'études ou bien professionnel?
Professionnel.
Professionnel, moi je suis entré à l'RTB il y a, oh là là, 89, ça veut dire 11, ça veut dire 33 ans. Je suis entré à l'RTB il y a 33 ans, j'ai passé un examen de recrutement. Après, je sortais juste de l'UNIF où j'avais fait le journalisme. Et voilà, j'ai été pris. Et puis je me suis retrouvé d'abord à. J'étais à la radio, ça s'appelait Radio 21. C'était l'ancêtre de Classique 21, on va dire. Donc c'était, je faisais les dernières nouvelles radio. Puis après, j'ai fait des journaux radio. Puis après, on m'a demandé de rejoindre une rédaction qui faisait rédaction régionale bruxelloise, qui faisait de la télé et de la radio, de reportage. Puis après, j'ai présenté. Enfin, voilà, j'ai présenté des journaux radio. Puis après, on m'a demandé de présenter des journaux télé. J'ai fait des reportages radio et télé. Et puis j'ai pendant 12 ans, 12-13 ans, j'ai présenté le journal du soir, dernier journal télévisé du soir qui s'appelait JT Soir, puis après qui s'appelait 12 minutes, puis qui après s'est appelé Views. Puis maintenant il n'y a plus de journal du soir, donc je refais du terrain depuis 2 ans.
D'accord. Alors, à quel défi est-ce que vous êtes confronté dans l'exercice de votre métier?
Et quand je disais du terrain, c'est du terrain pour le journal télévisé.
Ouais.
Alors quel défi? Les défis habituels d'un métier de journaliste de télévision, c'est-à-dire la gestion du temps, du stress. Il faut être rapide, il faut être évidemment toutes les règles journalistiques concis, précis, juste, équilibré, le plus objectif possible, ce genre de choses. Ça, c'est les règles déontologiques et journalistiques habituelles. Mais en télé, c'est vrai qu'il y a une gestion du temps, du stress, de la concision. Il faut expliquer des choses compliquées en 2 minutes. Voilà, c'est pas le sens de l'image, jouer avec l'image, jouer avec les mots, jouer avec le son. Donc, c'est différents éléments qui sont parfois difficiles comment dire, à faire correspondre, mais qui, moi, me conviennent bien. C'est un challenge, un défi et un jeu, une sorte de jeu permanent.
C'est quoi les moteurs qui vous poussent à exercer le métier de journaliste, à continuer?
Je crois à la curiosité, la rencontre, la curiosité. Moi, je suis curieux. C'est vrai que voilà, on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas dans la vie normale, dans la vie courante. On découvre chaque fois des choses différentes. Il y a une variété de sujets hallucinantes. Moi, quand je vais le matin à la rédaction, je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée. Donc, on va m'envoyer faire, je sais pas, la semaine dernière, j'étais faire une survivante de la Shoah. Et puis, le lendemain, on va faire des femmes qui ont eu le cancer du sein et qui réclament qu'on rembourse les chapeaux, parce qu'on rembourse les perruques, mais pas les chapeaux. Donc, tu vois, on va voir une dame qui a le cancer du sein, qui a plus de cheveux et qui va chez une chapelière. On va le lendemain faire des Ukrainiens qui peuvent pas changer leur argent et qui sont. Enfin, bon, voilà, ça fait rencontre. Et puis, ça peut être un matin un SDF, l'après-midi un ministre. Voilà, c'est très varié. Ça fait, voilà. Moi, c'est la curiosité, la variété.
D'accord. C'est quoi la ligne éditoriale de la RTBF?
Ouh là là, alors l'RTBF a 5 radios, 3 chaînes de télé, et la ligne éditoriale, elle
Bah,
essaye.
du coup, on va plutôt dire les médias où vous travaillez, quoi, donc
Oui,
JT en
parce
l'occurrence.
qu'évidemment, il y a plein de lignes éditoriales selon les médias. Typique n'a pas la même éditoriale que la première, ou Classique 21, ou Musique 3. Et donc, moi, je travaille pour le journal télévisé. L'RTB a diffusé à des lignes éditoriales adaptées à 4 publics qu'elle a identifiés, et des publics affinitaires, c'est-à-dire un public un peu très très exigeant, un public plus large, plus populaire, c'est le nous, on appelle ça le nous. Il y a aussi un public plus jeune public, des jeunes générations. Moi, je travaille au journal télévisé. Le journal télévisé, son public, c'est le nous, c'est-à-dire le plus large possible. C'est-à-dire vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est pas un public de niche, c'est vraiment, voilà, ça se veut très très généraliste, et donc il faut avoir un sens de la pédagogie pour expliquer les enjeux parfois compliqués de manière très très accessible à tout le monde. Mais
Et
voilà, non, sur la ligne éditoriale, vous pourriez trouver des pages entières sur le site de l'RTB qui expliquent la ligne éditoriale. Mais on va dire ça, c'est parler au plus grand nombre. On a un service public, donc on doit parler au plus grand nombre. C'est pour ça et sur de gens qui regardent les émissions sur tous les supports. Donc effectivement, notre ligne éditoriale, on est présent sur TikTok, on est présent sur Instagram, on est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook, on est présent sur YouTube, on est présent sur tous les supports. Moi, c'est le journal télévisé. Effectivement, c'est censé être le navire un peu amiral de la RTB qui parle au plus grand nombre. Après, il y a des publics de niche, mais là, c'est vraiment un public généraliste.
Et du coup, qu'est-ce que vous savez de la politique réseaux sociaux de l'RTBF?
La politique réseaux sociaux, c'est-à-dire, oui, c'est pas mon rayon, voilà, tu me demandes ça en tant que citoyen. Moi, je suis sur Instagram, à titre personnel, je suis sur Instagram, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Twitter, donc j'ai pas, et la RTB a une démarche qui essaye, se rendant compte que le public, de moins en moins, notamment la jeune génération, ne regarde plus la télé ou de moins en moins n'écoute de moins en moins la radio, effectivement, la démarche de l'RTB est d'être présente sur tous les réseaux sociaux pour informer les gens où ils sont. Vu qu'ils ne viennent plus aux réseaux traditionnels que sont, enfin aux médias traditionnels que sont la radio ou la télé, eh bien, la RTB, qui aurait très bien pu dire tant pis pour eux, eh bien non, la RTB, effectivement, met des moyens, et effectivement, c'est des moyens, ça coûte cher, ça prend beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de temps pour aller être présent sur effectivement tous les réseaux sociaux. Donc mais voilà, maintenant, si tu me demandes mon avis sur la question, moi, je suis pas sur Facebook, pas sur Twitter, donc j'ai un avis un peu extérieur à la question.
Et justement, pourquoi ne pas utiliser Facebook et Twitter et Instagram, mais à titre personnel, du coup?
Parce que c'est chronophage, parce que ça prend beaucoup de temps, parce que j'ai assez avec Instagram. Et c'est pas du tout. Quand on parle d'Instagram, c'est à titre personnel. Moi, je n'ai pas d'Instagram professionnel. Mon Instagram, c'est je mets une photo par jour, je fais un commentaire par jour. Ça, c'est à titre privé. Donc, en tant que journaliste RTB, je n'utilise pratiquement pas les réseaux sociaux. Voilà. J'en ai pas, je n'ai pas, j'en ai pas d'usage.
Et du coup, Instagram, ça va être un compte verrouillé, quoi, où vous n'acceptez que
Non,
les. Non, c'est
non,
un grand
non, je crois
public.
que j'ai 3 500 personnes qui me suivent. Mais c'est non, c'est personnel. Maintenant, les gens savent bien que je suis, comment dire, je suis, et tous les journalistes de l'RTBF sont, même sur leur compte privé, sont tenus à un devoir de réserve, et parce qu'effectivement, moi, en plus, j'ai un visage un peu public de l'RTB, puisque j'ai présenté le journal télévisé pendant 13 ans, et donc je sais bien que si je dis quelque chose, c'est à la fois à titre privé, mais je suis aussi un visage, quelque part, de l'RTB, donc même à titre privé, j'ai un devoir de réserve de part de l'RTB. Je ne peux pas dire pour qui je vote, par exemple, alors que n'importe qui peut le dire. Moi, je ne peux pas dire pour qui je vote, parce que je suis comme journaliste, je peux être amené à moi-même faire des interviews politiques, je n'ai pas à dévoiler mes opinions politiques ou ce que quelqu'un d'autre pourrait faire. Voilà. Si, n'importe quel citoyen peut dire pour qui il vote, en tant que journaliste, je ne peux pas, par exemple, le faire, parce que effectivement, ça pourrait se retourner à la fois contre moi, parce qu'on va me dire je suis pas neutre, et à la fois contre l'RTB, parce que ça comment dire, ça nuirait au souci d'indépendance et d'équité de l'RTB.
Et donc même, mais si vous quittez la RTBF par exemple, là il n'y aura plus de problème.
Je pense que quand on quitte les médias, si je le quitte, si je suis à la retraite, un truc pareil. Ou tu veux dire si je quitte, pourquoi je
C'est juste
quitterais?
la RTBF qui a cette politique-là ou c'est vraiment tous les médias?
Bah, tu leur demanderas, je n'en sais rien.
Donc c'est une politique qui est spécifique à la RTBF.
Non, je n'ai pas dit ça. Tu le demanderas aux autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
D'accord.
Un journaliste doit pouvoir dire qu'il ne sait pas. Je ne sais pas ce que RTL demande à son public, à ses journalistes. C'est parce que le soir, j'imagine que tous les médias demandent à leurs journalistes d'être prudent et modéré dans l'expression de leurs opinions, parce que cette opinion n'est pas tout à fait détachée du média pour lequel on travaille. Moi, si je dis quelque chose, j'ai un visage qui est identifié, on me reconnaît dans la rue, ah, vous êtes journaliste à RTBF, ça m'oblige à avoir une certaine prudence dans l'expression de mes opinions, parce que ça n'est pas que personnel. Si je dis quelque chose, ça englobe aussi ma profession, ma place comme journaliste. Si j'injurie, si j'ai des propos vis-à-vis d'un homme politique sur mon Instagram, ce que je pourrais, n'importe qui a le droit de le faire, hein, sans faire de la calomnie, sans rentrer dans des infractions légales. Mais je pourrais très bien être relativement agressif vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est peut-être que 3 jours après, je vais l'interviewer. Donc je dois quand même, si je veux garder une certaine objectivité, une certaine indépendance et neutralité, je ne peux pas me permettre, effectivement. En fait, c'est le propos, oui, du travail.
Bah, je peux donner une direction. C'est des entretiens semi-directifs, donc
D'accord, non, je t'en
très
prie, je t'en
bien.
prie, je t'en prie. Je crois que c'était plutôt sur les violences, mais d'accord, vas-y, je continue, continue, continue.
Parce que là, parce qu'il y a toute une série de questions
D'accord,
introductives,
d'accord,
c'est pas moi qui ai
d'accord.
fait la grille d'entretien, donc je suis
D'accord,
un peu tenu de
d'accord.
respecter ça. Mais
Ouais.
bon, du coup, votre compte Instagram privé, c'est plutôt pour poster quel type de contenu, du coup, vu que
Bah,
c'est
t'iras
pas
voir,
forcément.
faut aller voir. Hein.
D'accord.
C'est privé, voilà. Enfin, c'est privé. C'est moi parfois au boulot, c'est moi parfois en vacances, c'est moi parfois. Moi, mon côté, c'est voilà, ma démarche, c'est de faire faire un clin d'œil par jour de ce que je filme, une photo que je fais par jour et que je poste. Voilà, maintenant, ça n'a rien à voir avec le boulot. Sauf de temps en temps, oui, ça va être peut-être moi. On sait que je suis journaliste à l'RTB, donc parfois c'est moi dans des circonstances de l'RTB, oui. C'est parfois dans un reportage, des choses pareilles. Mais ce n'est pas du. C'est pas estampillé RTB, c'est personnel.
Et du coup, vos abonnés sur Instagram, ils sont plutôt bienveillants ou il y a parfois eu des accroches
Non, ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants.
D'accord. Donc, vous craignez pas qu'à un moment donné, il y ait des gens qui, tout d'un coup, commencent à vous harceler sur les réseaux ou,
Ben, moi, n'étant que sur Instagram, c'est pas un réseau où on harcèle, hein, franchement. Moi, je suis plutôt harcelé par des jeunes femmes qui vendent leur charme. Hein. Mais sinon... Oui, ça pourrait. Ben, s'il y avait vraiment des gens qui étaient désobligeants, ben, peut-être que je les bloquerais ou peut-être que j'aurais, ça ne m'est pas arrivé. Donc, oui, c'est pas un média où on s'étripe, hein, Instagram. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma démarche. Je ne mets pas d'opinion tranchée. Je mets des clins d'yeux plutôt humoristiques. Ça n'appelle pas vraiment de réaction agressive. Je ne vais pas m'en prendre, je ne sais pas, pendant la crise Covid, j'ai injurié personne, j'ai voilà, je veux dire, je ne cherche pas la bagarre, voilà. Donc, quand on ne cherche pas la bagarre, en général, on ne la trouve pas, voilà.
Et donc, il ne va pas y avoir des débordements par rapport au sujet journalistique qui déborderait sur Instagram, quoi.
Non.
Rien du tout.
Bon, oui, non, c'est anecdotique. Non.
Bah du coup, pour ce qui est de la vie réelle, vous, à un moment donné, vous avez été agressé lors d'une manifestation anti-mesures sanitaires, etc. Ouais. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ça?
Alors d'abord, il y a eu plusieurs. Pendant toute la crise Covid, j'ai fait du terrain tout le temps, que ce soit dans des hôpitaux, dans des services de soins intensifs, dans des maisons de repos, dans des crèches, dans des crématoriums, dans des cimetières. Vraiment, comme aux gens de télévision, on ne peut pas travailler à distance. En presse écrite, on peut faire du télétravail, en radio aussi. En télé, il faut aller sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas filmer depuis chez soi. Donc, et c'est vrai que on a senti, tous les gens de terrain vont le dire, on a senti avec cette crise une agressivité monter vis-à-vis des journalistes, et une agressivité générale vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des dirigeants et des journalistes. Pourquoi? Parce qu'on était considérés comme les porteurs de parole, quoi. Quand un ministre de la Santé prend des mesures ou quand le gouvernement prend des mesures, eh ben, c'est nous qui les annonçons. Et beaucoup de gens nous ont associés aux mesures qui étaient prises. Voilà, parce qu'on annonçait qu'il y avait du confinement, on devenait une sorte de complice. C'est ce qu'on entendait le plus souvent comme injure. Ça a commencé par des injures dans des manifs où collabos, complices, menteurs, manipulateurs. Voilà, les gens peuvent être d'accord ou pas avec les mesures. Nous aussi, on peut être d'accord ou pas avec les mesures. Mais en attendant, on les annonce, on donne la parole à des gens qui les expliquent, à des ministres, on donne la parole à des gens qui sont contre. La preuve, c'est que dans ces manifs, on se faisait injurier ou malmener. On y était dans ces manifs pour donner la parole aux gens. Donc, si vraiment on avait été à la solde du pouvoir, on ne serait même pas allé faire d'apportage sur ces... C'est la fois que j'expliquais, mais attendez, vous m'injuriez, mais je viens faire un reportage, je viens vous donner la parole. Donc, si vraiment on était complice de pouvoir, on ne couvrirait pas les gens qui opposent. On vient pour leur donner la parole et faire des directs, faire des interviews. Bref, on a eu effectivement des injures, des remarques des gens qui les discutaient, c'est une chose, des gens qui injurient, des gens qui crient, des gens qui crachent. Et je comprends, ils étaient en colère contre la situation, tout le monde est en colère contre la situation. Et puis à un moment donné, il y a eu des bousculades dans certains manifs, la boum, moi j'ai fait toutes les boums au bois de la Cambre, il y a eu des bousculades, on s'est fait cogner, on a voulu nous faire renverser, tout ça. Et puis c'est vrai que le point d'orgue, c'était cette manif au cinquantenaire, une manif qui se terminait au cinquantenaire, où là, moi j'ai carrément été, alors j'ai eu une horde de personnes devant moi, j'avais 20 ou 30 personnes devant moi, qui me reprochaient tous les maux de la terre, et puis il y en a un qui est venu, qui m'a mis un spray lacrymogène en plein visage, et là ça a été vraiment, c'est vraiment de l'agression pure et simple, c'est-à-dire on peut discuter, moi j'argumente toujours, j'ai passé des heures à discuter avec des manifestants, et les interviewer, et les convaincre de les interviewer, ils disaient, de toute façon ça passera pas, je disais, mais chiche, je les interviewais, et ça passait, alors évidemment après ils me disaient, vous n'avez pas passé tout, ben oui, mais ça, c'est la nature d'un reportage télévisé. On ne peut pas passer, si quelqu'un fait une diatribe de 7 minutes, il ne peut pas passer 7 minutes dans un reportage qui doit en faire 2. Ça, c'est mathématique. Mais donc, j'ai passé des heures à discuter. Mais voilà, effectivement, là, un spray dans la figure, ce n'est pas de la discussion, ce n'est pas de l'argumentation, ce n'est pas de proche, c'est une agression physique. Et il y a eu plainte à la police. Et voilà, parce que là, on a dépassé les bornes.
Mmh. Et est-ce que vous pensez que vous avez agressé juste parce que vous étiez un journaliste et que ça se voyait parce qu'il y avait une caméra ou bien
alors, j'étais sans caméra. C'est ça qui était particulier. J'étais sans caméra. J'ai essayé de rejoindre mon caméraman, mais il y avait un mouvement de foule. J'ai essayé de rejoindre mon caméraman que j'avais perdu. Donc, j'étais seul. J'avais un masque, mais comme je vous ai dit, j'ai un visage reconnaissable et donc quelqu'un, malgré mon masque, m'a reconnu et m'a désigné. C'est un journaliste. Et puis il y a eu un attroupement. Et là, dans l'attroupement, il faut bien reconnaître qu'il y a eu deux types de personnes. Il y avait des gens qui étaient vraiment des gens informés et qui savaient très bien et qui avaient des arguments à propos du traitement journalistique ou de la crise, tout ça, qui avaient une opinion et qui discutaient à un journaliste. Et voilà, avec certains de manière quand même agressive, mais voilà. Et puis l'autre partie qui était des casseurs, qui étaient là pour, comme dans ces manifs, comme dans toute manif, il y a des gens qui viennent pour casser, qui ne savaient pas qui j'étais, qui ont juste compris qu'il y avait une cible. Et effectivement, j'avais d'une part des gens qui me reprochaient des choses journalistiques, puis d'autres, j'entendais des gamins qui disaient c'est qui. Et le gars qui m'a agressé est un de ces jeunes qui ne savait pas qui j'étais, parce que tout ça a été filmé par une autre caméra. Et c'est un gars qui vient de nulle part, qui m'agresse et qui s'en va. Donc il ne sait même pas que je suis journaliste. C'est ça. Dans ce genre de manif, c'est ça arrive. C'est un gars qui voulait chercher la bagarre, c'est tout. Mmh. Il a senti qu'il y avait un maillon faible avec 20 personnes dessus. Il s'est dit, j'attaque le maillon faible. C'est plus facile, évidemment, dans une meute, d'attaquer, de se mettre du côté de la meute que du côté de l'agressé.
Et du coup, après cette agression, est-ce que vous avez, on va dire, mal pris, vous êtes senti mal, vous avez peut-être eu envie de changer vos pratiques professionnelles, prendre moins de risques?
Non. Alors, moi, non, parce que j'ai d'ailleurs dit le lendemain à mes chefs, alors j'ai terminé aux urgences quand même, à l'hôpital, hein, mais le lendemain, j'ai dit, je suis prêt à partir. Moi, je maintiens que tout le monde a le droit de manifester, les gens ont le droit de reprocher des choses aux journalistes, les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec la manière dont on travaille, les gens ont le droit de nous le dire, on peut discuter, mais bon, finalement, agresser, non. Donc moi, j'étais prêt à partir, mais c'est vrai que mes chefs m'ont dit, mes responsables m'ont dit, non, tu vas plus couvrir de manif pendant un certain temps, parce que ça risque d'être pris comme de la provocation. C'est vrai, si j'y retournais, ça risquait d'être pris comme de la provocation. Donc effectivement, on m'a un peu... De toute façon, dans les manifs de ce genre-là, d'abord, il y en a moins, et maintenant, malheureusement, à cause de cette agression, maintenant, on fait ça avec des gardes du corps. Donc c'est minable d'en arriver là. On est obligé de faire des manifs avec des gardes. Et tous les médias qui font dans ce genre de manifs, maintenant, ont des gardes du corps, des vigiles qui sont là et qui protègent les journalistes pour qu'ils puissent faire leur métier. On a toujours cru que ce ne serait que dans des dictatures que ça aurait lieu. Mais là, voilà, c'était effectivement dans des pays avec des régimes autoritaires. Mais là, effectivement, on doit être protégé par des gardes du corps pour faire notre métier.
Et ça, c'est vraiment depuis le Covid, quoi.
Oui, c'est depuis les agressions du Covid. Oui. Avant, on n'avait jamais été agressé. On a toujours eu des gens qui étaient d'accord, pas d'accord, dans des manifs, on peut toujours discuter. Mais agressé, ça n'a jamais été le cas. Et comme je ne suis pas le seul, les voitures ont été vandalisées, on est obligé d'avoir des voitures non siglées, on est obligé de cacher les sigles aux caméras, on est obligé d'enlever tout signe distinctif, et maintenant, on est obligé d'avoir des gardes du corps.
Et à votre avis, pourquoi est-ce que ces agressions ont augmenté de nos jours?
Parce qu'on a vécu une situation inédite. C'est vrai qu'on n'a jamais eu une situation avec des confinements, avec des mesures sécuritaires liées à la situation qu'on a eue. On n'a jamais eu ça. C'est vrai qu'on demandait aux gens de ne pas sortir, on est obligé de mettre le masque, obligé de faire des tests, obligé quasi obligé de se faire vacciner. Oui, c'est du jamais vu. Donc effectivement, les gens sont sentis, contraints dans leur liberté, en tout cas perturbés dans leur liberté, et il y avait de la colère, et donc de la colère vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la situation, vis-à-vis, et il faut bien que la colère s'exprime contre quelqu'un, donc c'est voilà, le plus facile c'est s'exprimer disons, face à celui qu'on rencontre. C'est le facteur qui apporte la mauvaise nouvelle, voilà, le facteur qui apporte votre déclaration d'impôt, ça fait chier une déclaration d'impôt, on engueule le facteur. Le facteur, il apporte la déclaration d'impôt, c'est pas lui qui la rédige, c'est pas lui qui touchera les taxes. Mais voilà, moi je compare ça un peu à ça. Voyez, on a annoncé les mesures, on a annoncé les mauvaises nouvelles, qui étaient des mauvaises nouvelles pour tout le monde, et on a été considéré comme étant du côté du manche, de la pioche, quoi. Voyez.
Et vous pensez que ça va s'améliorer à l'avenir maintenant que c'est...
J'espère que ça va se calmer un peu, parce que sinon... Ça se calme, franchement. Moi, tous les reportages que j'ai faits depuis, On sent bien que la tension est retombée. Même les gens qui, à mon avis, qui étaient bien remontés, se sont un peu quand même un peu calmés. Les mesures sont plus là, il n'y a plus aucune contrainte. Voilà. On espère que l'épisode est fini et on espère que la flambée qu'on a eue d'agressivité est finie aussi.
Alors, c'est un peu en revue mes questions. Est-ce que vos proches ont été affectés par ces agressions?
Oui, je pense qu'ils ont été affectés. Ils ont eu, oui, bien sûr, ils ont été affectés. Quand quelqu'un se fait agresser dans une famille, oui, mes enfants. Alors, moi, oui, j'ai même des enfants qui sont sur des réseaux sociaux qui me disaient, oh là là, n'y va pas parce que ça se déchaîne. Donc oui, non, non, moi, ils ont été affectés par la situation et ce qui m'est arrivé. Oui, évidemment.
Qu'est-ce que vous pensez que les médias peuvent mettre en place pour, on va dire, rétablir la confiance avec, le public?
D'abord continuer à informer, alors sans doute peut-être en donnant plus la parole, oui, en donnant sans doute plus encore la parole, mais il me semble qu'on l'a déjà beaucoup donné, mais enfin voilà, sans doute que des gens ont l'impression qu'on ne leur donnait pas assez la parole. Je sais bien qu'il y a une dame qui était dans un débat, qui a pris la parole, c'était QR, je pense qu'on a chronométré après, elle a parlé pendant plus de 2 minutes. Elle a fait un dialogue de 2 minutes, puis après 2 minutes, on lui a demandé de passer à autre chose, en tout cas de donner la parole à quelqu'un d'autre, et elle s'est levée en disant « Je m'en vais puisqu'on ne me laisse pas parler. » Et bien effectivement, elle avait parlé pendant 2 minutes. C'est extrêmement long, 2 minutes, en télévision. Mais voilà, on peut après 2 minutes avoir l'impression qu'on n'a pas la parole. Mais voilà, il y a beaucoup de gens, effectivement, j'ai l'impression qu'ils n'auront jamais assez, ils n'ont jamais l'impression qu'on leur donne assez la parole. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, continuer à essayer d'informer de manière équilibrée, en donnant la parole à tous les camps, au pour, au contre. Mais on ne peut pas non plus donner la parole à des gens qui disent des choses insensées. Ça, faut pas déconner. Si demain quelqu'un dit que la Terre est carrée et rouge, on ne va pas aller l'interviewer pour lui dire: Ah oui, vous pensez que la Terre est carrée et rouge? Et à un moment donné, voilà. Et dans cette histoire de crise, c'est vrai qu'à un moment donné, on a mis la barrière, nous, pour ne pas donner la parole à des hurluberlus ou des illuminés. Et certaines personnes croyaient ces illuminés, donc ils avaient l'impression qu'on censurait. Mais voilà, il a fallu remettre quand même le curseur quelque part pour ne pas dire n'importe quoi. On ne peut pas non plus dire n'importe quoi sur antenne. On a quand même un sens des responsabilités.
Vous dites que vous avez porté plainte suite à cette agression. Est-ce que vous êtes satisfait des suites de la plainte en question?
Là, j'ai été entendu, on verra bien la suite, je n'en sais rien. J'ai été entendu par la police, on avait une vidéo, dans une vidéo, je crois que la personne a été identifiée. Voilà, donc je n'ai pas les suites maintenant. On sait bien que la justice et la police sont débordées, qu'il y a eu plein d'affaires. Donc je ne m'attends pas, moi je ne réclame pas un procès et une condamnation exemplaire tout bazar. Moi, on voulait porter plainte, c'est le signal que ça ne se fait pas. Agresser les gens, ça ne se fait pas, c'est tout. Vis-à-vis de n'importe qui, d'un homme, d'une femme, d'un journaliste, d'un coiffeur, d'un policier, d'un pompier, d'un boulanger, on n'agresse pas les gens. Voilà, c'est pour ça que la plainte, c'était ce sens-là. Maintenant, après, est-ce qu'il y aura procès ou pas, on verra. L'important, c'était de marquer le signal que ça n'est pas acceptable.
Et est-ce que vous êtes satisfait du soutien de la RTBF?
Là, pour le coup, oui, parce que c'est eux-mêmes qui m'ont encouragé à porter plainte. Ils ont porté plainte et se sont joints à la plainte. Donc oui, la RTBF évidemment était à maintenant effectivement a porté plainte, pas rien pour mon cas, a porté plainte pour plus d'autres cas. La RTBF a estimé qu'il y avait une tolérance zéro vis-à-vis des actes d'agressivité physique et même sur les réseaux sociaux vis-à-vis des journalistes. Oui, parce que c'est normal, quelque part c'est normal qu'un employeur défende ses employés quand ils font leur métier.
Du coup, plus pour partir sur l'expérience de vos collègues avec les réseaux sociaux, vous m'avez dit que vous aviez plusieurs collègues qui avaient été harcelés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous en savez?
Il faut leur demander. Non, non, je n'en sais pas plus que ça.
Donc c'est juste, comment est-ce que vous l'avez appris?
On en parle, évidemment, on en parle, mais on en parle. Mais donc voilà, effectivement, il y a des gens qui ont des menaces de mort, il y a des gens qui ont des appels à la démission, toutes les injures qu'on peut imaginer sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai des collègues qui sont voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas spécialement envie d'aller me mêler à ce genre de pratique. Donc voilà, oui, mais non, oui, il faut leur demander, je peux vous donner. Appelez Joanne Monté, par exemple. Voilà, Joanne Monté, qui est responsable santé, donc journal télévisé, ben, vous pouvez l'appeler. Elle vous racontera tous les agréables mails ou remarques, enfin même pas des mails, c'est plutôt des posts qu'elle a reçus et toutes les menaces qu'elle a reçues. Ouais.
Et donc vous pensez vraiment que c'est vous échappez parce que vous n'êtes pas dessus en fait. Sinon vous pensez que vous prendriez autant de critiques que les autres?
J'en sais rien. Ça m'a marqué quand j'étais au cinquantenaire et que des gens étaient en train de crier, de gueuler, tout ça. J'en ai entendu un qui retenait les autres, qui disait « Arrêtez, arrêtez, c'est pas le pire. » Donc, quelque part, j'ai moi, chaque fois, essayé de discuter, chaque fois, essayé de parlementer, chaque fois, essayé de... J'ai passé des heures, parfois j'ai même mis mon reportage en péril parce que je devais faire un montage pour rentrer pour telle heure, et pourtant je passais une demi-heure à essayer de convaincre des gens de que je faisais mon métier le plus honnêtement possible et que je n'étais pas le menteur ou le manipulateur qu'ils croyaient. Parce que voilà, ils croyaient quand il y a des gars qui me disaient « J'espère que vos vacances vont bien se payer, vont bien se passer, payées par les industries pharmaceutiques. » Mais vacances payées par l'industrie pharmaceutique, avec quoi ils viennent? Je paye mes médicaments comme tout le monde, j'ai aucune vacance. Mais voilà, il y a des gens qui s'étaient persuadés que le Big Pharma arrosait les médias, que tous les journalistes qui parlaient de vaccins étaient payés par Pfizer. C'est du délire total, évidemment. Mais voilà, moi j'essaie de parlementer, mais à un moment donné, on se rend bien compte qu'on ne peut pas convaincre des gens qui ne veulent même pas entendre. Donc oui, j'ai échappé sans doute à des débats sur les réseaux sociaux et je m'en félicite. Ouais.
Et vous pensez que les femmes sont plus exposées que les hommes aux harcèlements sur les réseaux sociaux?
Alors, à propos du Covid, absolument pas. Je ne vois pas quelle est la différence entre femmes et hommes à propos du Covid, non. Maintenant, en termes généraux, ça sans doute que les femmes, oui, parce qu'il y a notamment une partie de harcèlement qui joue sur le physique, voilà, et qui va jouer sur le physique, sur l'allure, sur le sexe, c'est-à-dire qui va viser en dessous de la ceinture, quoi. Et ça va être sans doute, est-ce que les harceleurs sont plus masculins? Mais c'est sûr que les femmes sont sûrement plus, me semble-t-il, sujette au harcèlement en termes généraux. Maintenant, sur le Covid, il n'y a pas de différence. Vous avez demandé à Sacha Daoud qui présentait les QR. QR, lui, il s'est fait agonir sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, c'est un homme. Il s'est fait dézinguer sur les réseaux sociaux parce qu'il présentait tous les jours un débat. Justement, les gens qui disaient qu'il n'y a pas de débat, ben lui, il faisait tous les jours débat, mais les gens qui le regardaient trouvaient que c'était toujours un peu trop la parole au pouvoir et pas assez la parole aux opposants. Voilà, ça après, il faut aller le voir, il faut aller voir les émissions, peut-être qu'il y aura sûrement des analyses pour voir ces émissions, combien de temps on a donné la parole à des gens de différents bords. Peut-être qu'il y a des reproches qui sont justifiés, hein. Peut-être qu'il y a des reproches justifiés, hein. Personne n'est à l'abri d'erreurs ou de fonctionnement un peu biaisé, donc il y a peut-être des reproches justifiés. Mais donc, non, en tant qu'homme-femme, en tout cas pendant la crise, je n'ai pas senti ça. Maintenant, voilà, en temps normal, c'est sûr qu'il y a sûrement... les femmes sont des cibles sans doute plus visées que les hommes.
Et vous avez l'impression que les réseaux sociaux vont exacerber l'agressivité, ou bien c'est juste le reflet de ce qui se passe
dans non, ils vont exacerber. Ils vont exacerber, ça c'est une évidence, non? Vous n'y croyez pas? Quelqu'un qui avant disait au café, que ce soit les femmes ou que ce soit toutes les minorités, qui avant disait au café du coin toutes des salopes, il y avait 5 personnes qui l'entendaient. Et maintenant, il met ça sur Twitter, s'il est un peu suivi, et en plus, plus il va le dire, plus ça va attirer des gens, parce que les gens aiment bien, il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux pour suivre des bagarres, hein, donc évidemment, il va le dire, ça va être des milliers de personnes qui vont l'entendre, et d'autres qui vont renchérir, donc effectivement, c'est un haut-parleur pour toutes les personnes qui ont des propos injurieux, calomnieux, racistes et tout ça. Ben les réseaux sociaux, c'est effectivement un diffuseur incroyable. Donc ça donne du coup, plus on l'entend, ça donne l'autorisation ou l'impression à d'autres qu'ils ont le droit de dire la même chose. Voilà, il y a un effet de meute. Oui, les réseaux sociaux créent un effet de meute, ça c'est clair. Qui en doute?